Merci de rester avec nous à l'écoute de RFI. Il est 11h à Paris, 10h en temps universel. Le journal tout de suite avec vous, Florent Guignard. Florent, bonjour.
Bonjour Caroline et bonjour à toutes et à tous. À la une, la rencontre entre les chefs des diplomaties russes et américaines, c'est en Arabie Saoudite, alors qu'à Moscou, le Kremlin affirme que Vladimir Poutine est prêt à négocier avec Volodymyr Zelensky si nécessaire. Le Liban saisit le Conseil de sécurité des Nations Unies pour exiger le retrait total de l'armée israélienne du Sud-Liban qui a maintenu 5 positions. On parlera aussi dans ce journal des violences sexuelles au travail en Côte d'Ivoire et puis du miracle économique espagnol. C'est donc une rencontre inédite depuis que la Russie a attaqué l'Ukraine il y a 3 ans. Le chef de la diplomatie des États-Unis et son homologue russe se rencontrent à Riyad en Arabie Saoudite pour établir l'ensemble de leurs relations, selon la Russie qui dit s'attendre à des progrès sur le volet économique et les sanctions d'ici 2 ou 3 mois. L'Ukraine est aussi au menu de ces discussions qui sont regardées d'un œil inquiet du côté de Kiev où l'on redoute que le rapprochement Russie-États-Unis se fasse sur le dos de l'Ukraine et de l'Europe. Correspondance d'Emmanuel Chaz.
Pas de discussion à propos de l'Ukraine sans l'Ukraine. Ce qui avait été le mot d'ordre des alliés de Kiev a volé en éclats depuis la semaine dernière et les annonces successives de Donald Trump et de son administration sur un dialogue bilatéral Washington-Moscou que les Européens et les Ukrainiens n'ont pu que constater. À Kiev, passé la stupeur de ces annonces et l'abattement pour certains, les Ukrainiens et en premier lieu le gouvernement veulent croire en un sursaut européen et à des garanties de sécurité apportées par Bruxelles. Volodymyr Zelensky avait déjà suggéré des contingents étrangers sur le sol ukrainien en nombre suffisant pour dissuader les forces russes de réattaquer en cas de cessez-le-feu décidé entre les deux parties. Sauf que ni le cessez-le-feu ni la présence de troupes étrangères en Ukraine ne sont encore des réalités. À ce stade, le président ukrainien affirme que son pays n'acceptera aucune décision prise bilatéralement par les États-Unis et la Russie, sans l'Europe et sans Kiev, et suggère qu'un envoyé spécial européen devrait être nommé afin de représenter le continent dans tout pour parler au sujet de l'Ukraine. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
La Chine qui défend le multilatéralisme dit espérer ce matin la participation au pourparlers de paix de toutes les parties prenantes. Et puis à Moscou, quelques déclarations il y a quelques minutes du porte-parole du Kremlin. La Russie dit que l'Ukraine a le droit de rejoindre l'Union européenne mais pas l'OTAN. Vladimir Poutine serait aussi prêt à négocier avec Volodymyr Zelensky si nécessaire. Le Liban dénonce une occupation alors que l'armée israélienne, contrairement à ce qui était prévu par l'accord de cessez-le-feu, a décidé de maintenir 5 positions militaires dans le sud Liban. Beyrouth va saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies. L'armée libanaise, elle, s'est déployée dans une 10aine de villages à la frontière entre le Liban et Israël. Alors parmi les villages finalement évacués par Israël, il y a Nakoura, dernière localité sur la côte libanaise avant la frontière. Sophie Guignon a pu rencontrer des habitants qui ont redécouvert leur village en ruine.
À Nakoura, les 3000 habitants reviennent abasourdis par l'ampleur des destructions causées par la guerre et l'invasion israélienne. Les maisons sont en ruine, les lieux de culte saccagés, le cimetière profané. Dans la mairie, elle aussi bombardée et brûlée, le maire Abbas Awada recense encore les dégâts.
Avant la trêve, le village était détruit à seulement 35%. C'est durant la trêve qu'il a été détruit à 90%. Les Israéliens ont ravagé le village avec des tractopelles. Les puits d'eau, l'école, le centre de santé, la centrale électrique ont été démolis. Ils ont fait ça pour empêcher notre population de revenir ici.
Adnan, 72 ans, a passé 9 mois entre octobre 2023 et juin 2024 sous les bombes et les drones. Agriculteur, il a finalement dû se résigner à quitter ses terres pour rester en vie. Sur son champ, ses arbres ont été arrachés, au sol, des traces de chars israéliens.
Je cultivais des avocats, des feuilles de vigne, des citrons et des bananes. Nos cultures et le fruit de notre fatigue n'existent plus. Qui va nous les rendre? À part Dieu, qui?
Alors que le cessez-le-feu est encore fragile et le pays ruiné, les aides se font attendre. La reconstruction, qui se chiffre à au moins 7 milliards d'euros, prendra des années. Sophie Guignon, de retour de Nakoura, RFI.
En Syrie, 2 mois après la fuite de Bachar el-Assad, des réfugiés souhaitent retourner dans leur pays. Alors pas forcément définitivement, hein. C'est ce qu'on appelle un voyage exploratoire, sans perdre leur statut de réfugié. Eh bien, c'est désormais possible pour les réfugiés syriens qui vivent en France. Laurence Théo.
Jusqu'à présent, les bénéficiaires d'une protection internationale ne pouvaient pas se rendre dans leur pays sous peine de se voir retirer leur statut. Aujourd'hui, les réfugiés syriens ont ce droit. Gérard Sadik, de la CIMAD, Association de Défense du Droit des Étrangers, explique la procédure.
Il faut que ces personnes se présentent au préfet, obtiennent le sauf-conduit contre l'échange de leur titre de voyage, et la durée est limitée. C'est-à-dire que les gens peuvent séjourner au maximum 1 mois dans le pays d'origine. Ils doivent être rentrés avant. S'ils ne rentrent pas, ils peuvent faire l'objet de ce qu'on appelle une mesure de retrait de protection.
La CIMAD salue une mesure rare.
C'était quelque chose qu'on préfigurait, c'est-à-dire qu'il y a eu dans le passé, notamment pour les réfugiés bosniaques, ce type de voyage exploratoire. C'est une mesure qui est décrite comme ça par l'OHCR. Donc le changement de situation en Syrie peut inciter des gens à retourner dans leur pays, mais il y avait un risque qu'ils perdent leur droit au séjour en France. Donc c'est plutôt une bonne mesure pour permettre la transition démocratique dans ce pays.
En France, selon les chiffres de l'OFPRA, 43 000 Syriens ont bénéficié d'une protection.
Plus de 200 civils, hommes, femmes et enfants tués ces 3 derniers jours dans des attaques de paramilitaires au Soudan contre 2 villages. Harcèlement, violence sexuelle, pression psychologique. Voilà à quoi est confronté en Côte d'Ivoire plus d'un travailleur sur 2 selon une étude de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. Alors comment les victimes vivent cette situation? Quelles solutions sont mises en place? Reportage d'Abdoulaziz Diallo.
À la sortie de l'université, Mireille décroche son premier emploi dans une entreprise de la place. Mais sa joie sera de courte durée. L'un de ses supérieurs hiérarchiques jette son dévolu sur elle. Malgré son refus d'entrer dans son jeu, il insiste et la harcèle pendant plusieurs mois.
Il a eu à me faire des attouchements. Il a eu à tenir des propos déplacés vis-à-vis de ma personne, chose que je n'appréciais pas. Mais au vu du titre de la personne, j'avais du mal au départ à prendre une décision ferme par peur que cela ait des répercussions sur mon travail ou sur ma carrière.
Ne supportant plus la situation, Mireille finit par quitter son emploi. Comme elle, plus d'un travailleur sur 2 en Côte d'Ivoire déclare avoir été victime de violence ou de harcèlement au travail. L'étude de l'ENSEA met en évidence des abus psychologiques mais aussi du harcèlement sexuel. Face à ce fléau, l'ONG Akwaba Mousso accompagne les entreprises pour tenter d'y mettre un terme. Maureen Grisot est la directrice exécutive.
Il s'agit de plusieurs procédures afin de mettre en confiance les victimes de harcèlement sexuel et de protéger les victimes ou les personnes à qui elles se confient. Il y a aussi une phase de sensibilisation du personnel pour expliquer ce qu'est le harcèlement sexuel, car beaucoup ne savent pas que certains de leurs actes font partie du prisme du harcèlement sexuel.
En Côte d'Ivoire, la loi prévoit une peine d'1 à 3 ans de prison et une amende de 360 000 à 1 million de francs CFA en cas de harcèlement en milieu professionnel. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
RFI, il est 10h08 à Abidjan, 11h08 à Paris. L'économie dans ce journal avec Meta, le groupe de Facebook, Instagram, WhatsApp, qui annonce le déploiement de 50 000 km de câbles sous-marins sur 5 continents. Et puis, en Espagne, les performances de l'économie. Ce n'est pas le cas dans toute l'Europe. L'Espagne voit sa dette publique refluer, Nathanaël Vitran.
Alors que les finances publiques françaises ne cessent de se dégrader, l'Espagne, elle, poursuit tranquillement son désendettement. Madrid n'avait pourtant pas été moins généreux que Paris pendant la pandémie et les mesures de soutien aux entreprises et aux particuliers avaient plombé les finances du pays. À son pic, en mars 2021, la dette publique espagnole s'élevait à plus de 124% du PIB. Mais 4 ans plus tard, elle a fondu à peine au-dessus de 100% de la production intérieure brute. Un résultat qui dépasse même les attentes du gouvernement de gauche au pouvoir. Mieux encore, ce redressement des finances publiques n'est pas dû à une brutale cure d'austérité, mais à la bonne santé et au dynamisme de l'économie espagnole. Porté notamment par un secteur du tourisme en pleine forme, la croissance a dépassé 3% en 2024, soit 4,5 fois la moyenne de la zone euro. De quoi gonfler les recettes fiscales, un petit miracle, d'autant que faute de majorité claire et incapable de faire adopter son budget, le gouvernement espagnol se contente de gérer les affaires courantes. Une source d'espoir peut-être de ce côté des Pyrénées.
11h10 à Paris, c'est la fin de ce journal dans un instant sur RFI, 8 milliards de voisins.